La une en Israël ce matin, on va faire un point sécuritaire avec notre invité Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, et on va aussi parler de son dernier livre sorti la semaine dernière intitulé Tribune de guerre, un livre qui vient de sortir aux éditions David Reinhardt. Lise, je vous laisse parler de tout cela avec Raphaël Jérusalemi.
Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on lisait dans la presse israélienne ce matin, Raphaël, que Tsahal avait aujourd'hui 60% le contrôle sur 60% de la bande de Gaza et pourrait achever cette guerre char de Gédéon dans les 2 à 3 prochaines semaines en contrôlant environ 80% de la bande palestinienne. Est-ce que vous y croyez ?
Il faut en croire en tous les cas les déclarations du chef de l'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, qui demande au gouvernement de prendre une décision parce que, pour sa part, lui, il estime avoir plus ou moins atteint l'objectif qu'on lui avait fixé, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de la bande de Gaza et de pouvoir plus ou moins bloquer le Hamas dans ses velléités de se redéployer, de se regrouper, de se reconstruire. Et ce qu'il attend maintenant, en fin de compte, c'est qu'on lui dicte l'objectif prochain, c'est-à-dire ou continuer l'offensive et aller jusqu'au bout sur la prise de la bande de Gaza militairement, ou alors se bloquer sur les positions actuelles, rester sur ces positions-là et attendre le résultat des négociations pour la libération des otages qui pourraient mener à une fin des hostilités, à une fin de cette offensive et peut-être même à un retrait partiel ou complet des troupes de Tsahal. Donc il est dans l'expectative, mais pour sa part, la mission est accomplie. Le Tsahal contrôle Gaza, même si le Hamas existe encore, même si malheureusement nous avons des pertes, le Hamas ne contrôle plus véritablement Gaza. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est un chaos auquel on assiste et qui est tout aussi gênant.
Alors justement, à propos de ce chaos, Raphaël Jérusalemi, la fondation américaine, la GHF, qui s'occupe de l'aide humanitaire à Gaza, disait que la tête de ses agents de sécurité et des membres de son organisation avait été mise à prix par les gens du Hamas, qui offraient des récompenses en espèces à tous les gens qui allaient les blesser ou les tuer, et que 12 membres de la GHF sont déjà morts. Si Tsahal a la main sur 60% de la bande de Gaza, comment se fait-il que la GHF ne puisse pas faire son travail sans se faire assassiner?
Alors, comme je l'ai dit, on parle d'un contrôle stratégique, un contrôle général sécuritaire qui fait que le Hamas ne peut pas attaquer Israël et les kibbutz du sud d'Israël comme par le passé. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur même de Gaza, l'ordre règne. On n'est pas la police, on est l'armée. S'il y a des gangs qui se bagarrent avec le Hamas, et si les mercenaires ou les agents de sécurité privés employés pour surveiller les ravitaillements ont maille à partir avec soit le Hamas, soit les gangsters locaux qui aussi essayent de voler du ravitaillement, c'est pas tout à fait le rôle de Tsahal. Ça peut être un rôle, je prends à partie le ministre des Affaires étrangères français qui erre barreau entre 3 salves d'antisémitisme, a dit que la France pourrait venir s'occuper, que c'était un scandale, qu'on contrôlait pas et que la France pourrait donner un coup de main. Eh bien, on attend que les Français viennent le faire. C'est pas notre travail. Notre travail à nous, c'est de garantir la sécurité des citoyens israéliens contre les attaques du Hamas, d'avoir une mainmise stratégique militaire sur la bande de Gaza et pas nécessairement de faire la gendarme. Et si les Gazaouis ne sont pas capables d'avoir la culture et la mentalité de l'entraide et de la solidarité dans la situation où ils se trouvent, on va pas les changer en 5 minutes et on va certainement pas risquer la vie de nos soldats pour le faire. Et donc, ce chaos n'est pas de notre ressort.
Alors, Raphaël, David Reinhardt vient de publier vos tribunes de guerre que vous aviez au départ écrites pour I24 News. Donc, ça fait 2 ans d'écriture. entre 2023 et 2025. Des tribunes qui sont toujours très précises et en même temps, souvent avec un certain humour. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait absolument que vous les écriviez?
Presque dès le début du 7 octobre donc 2023, parce que il y a tout de suite eu, et moi inclus d'ailleurs, un grand désarroi, une grande confusion dans tout ce qui se passait, et il fallait absolument mettre de l'ordre dans le désordre, mettre un peu les choses en place. Et puis le but de mes tribunes, c'est de rasséréner les gens, de les fortifier dans une période aussi difficile qui s'est en suivi ensuite d'une montée incroyable de l'antisémitisme partout. Donc moi, mes tribunes, elles sont d'abord pour rasséréner, pour fortifier. D'ailleurs, les lecteurs qui me rencontrent me le disent. Vous nous rassurez, vous nous expliquez ce qui se passe. Et puis, de leur donner quand même aussi des munitions, parce que nous sommes attaqués. Il faut que nous nous défendions. Dans ces tribunes, il y a des munitions, et parfois l'humour, comme vous l'avez précisé, peut être aussi une munition. Ou prendre le taureau par les cornes. J'ai des articles où j'attaque carrément de front nos adversaires, mais dans d'autres, c'est par l'humour, effectivement, par la dérision. Ces tribunes, c'est pour moi, et je remercie I24 et David Reynac comme éditeur ensuite, c'est un acte de résistance, c'est un acte de combat.
Alors, dans cette édition de vos tribunes de guerre, il y a également les commentaires de Mohamed Sifaoui, et on comprend que c'était l'idée de votre éditeur de faire commenter vos textes par Mohamed Sifaoui. Vous êtes ami dans la vie, Raphaël Jérusalemi, avec Mohamed Sifaoui ?
Eh bien, figurez-vous que je ne le connaissais pas personnellement. J'avais, bien sûr, comme tout le monde, vu ses interventions. Je ne connaissais pas le personnage. Et quand on ne le connaît pas, on n'est pas sûr de quel avis avoir sur lui. Et je peux vous dire que c'est un type formidable. Je l'ai rencontré. J'ai été convaincu par sa sincérité, sa franchise. Il signait quand même dans une foire de livres à Nice. Il dédicaçait des livres. Et devant lui, sous le nom Mohamed Sifaoui, il y avait 7 octobre, ni pardon, ni oubli. Et je pense qu'il a fait beaucoup pour nous. De toute manière, nous ne sommes pas toujours d'accord, ça c'est sûr. Et Mohamed, dans ses commentaires, il joue en fait le rôle du lecteur avisé, de l'exégète. Il porte des messages aussi à lui. Et on n'est pas toujours d'accord, mais là où nous sommes d'accord tous les deux, c'est que nous avons une franchise sans complexe. Nous avons, on peut dire, des grandes gueules, donc ça, on est d'accord là-dessus. Et on mène un combat, plus ou moins bien, chacun de notre manière, contre un ennemi terrible qui est l'antisémitisme, la haine et la violence contre Israël et le peuple juif. Et lui, il le fait, et je me suis quand même joint, sans le connaître personnellement, par le passé, au combat, par exemple, pour la libération de Boualem Sansal. Et donc, là, on voit bien que dans cette lutte, nous avons évidemment des points communs et on doit s'entraider.
Dans une de vos tribunes, Raphaël Jérusalemi, vous écriviez à la fin « Il faut bien sûr annihiler le Hamas, on a attendu trop longtemps pour le faire. Si longtemps que cela peut attendre encore un peu, priorité aux otages, l'objectif est d'assurer leur délivrance et de régler son compte au Hamas ensuite. » Vous pensez toujours la même chose ?
Non seulement je pense toujours la même chose, mais le peuple israélien aujourd'hui, dans sa grande majorité, d'après les sondages, pense la même chose. Je pense que beaucoup de juifs en diaspora pensent la même chose. On a vu cette semaine des jeunes soldats de Tzal tomber sans être tout à fait convaincus que leur mort n'était pas en vain, que ce sacrifice était absolument nécessaire. Je le dis et je le répète, après tout, on a eu des gouvernements israéliens qui ont laissé le Hamas en place pendant 20 ans. Ils n'étaient pas pressés à ce moment-là. Tout d'un coup, les voilà pressés. Eh bien, malheureusement, justement, comme le vient le déclarer le chef de Tzahal, on peut continuer encore quelques semaines. Croyez-vous véritablement que les otages qui ont survécu aux atrocités qui leur sont infligées jour après jour ont encore quelques semaines? Ils vont mourir. C'est les condamnés à mort.
Un an après le 7 octobre, vous écriviez que les forces de défense et de sécurité avaient reconquis la confiance des Israéliens, qui avaient effectivement été largement perdues après ce pogrom atroce du 7 octobre 2023. Mais surtout, vous disiez, elles sont parvenues à établir une nouvelle équation stratégique au Proche-Orient. Et donc, 2 ans après, encore plus, Raphaël.
Oui, d'abord, dès le 8 octobre, Tsahal s'est repris malgré la terrible erreur. Très, très vite, on a repris le dessus. Et moi, je dis toujours, le plus grand rêve de Sinwar, le chef du Hamas, est devenu son plus grand cauchemar. Il pensait, lui, impliquer tout le Proche-Orient, faire basculer tout le Proche-Orient vers une guerre contre Israël, impliquer les Iraniens, peut avoir de normalisation avec les Saoudiens, et tout cela est devenu son pire cauchemar, parce qu'aujourd'hui, c'est Israël. C'est quoi la nouvelle équation stratégique ? Aujourd'hui, au Proche-Orient, Israël est le maître. C'est aujourd'hui Israël qui décide quand et qui, et si frapper, par exemple, l'Iran, quoi faire en Syrie, quoi faire au Liban. Nous contrôlons, c'est à Gaza, on piétine, c'est vrai, c'est dur. Mais en gros, stratégiquement, on a le contrôle également. Donc aujourd'hui, au Proche-Orient, il y a un pays qui est le maître, incontesté militairement, c'est Israël, mais un pays aussi vers lequel beaucoup d'autres pays regardent et veulent s'approcher. On va certainement avoir des suites de cette opération contre l'Iran, par exemple, mais aussi de nos succès au Liban et en Syrie. On va avoir des approches très, très certaines d'autres pays arabes que l'Arabie Saoudite ou les Émirats pour des normalisations éventuelles.
L'an dernier, vous écriviez « Les ennemis d'Israël rêvent de destruction et de djihad alors que le peuple juif de Terre Sainte n'aspire qu'à la paix ». C'est possible aujourd'hui la paix, Raphaël Jérusalem ?
Possible ou pas, il faut viser la paix. Et on n'a pas le choix. Nous nous battons avec bravoure, mais en vérité, ces guerres nous sont imposées. Tout ce que les Israéliens veulent, c'est vivre en paix avec leurs voisins. Dans une coexistence, comme on dit. Malheureusement, les forces du mal sont là. Nous n'aspirons qu'à la paix. Et on en veut, pour exemple, la différence entre l'éducation des enfants israéliens et l'éducation des enfants palestiniens. Les enfants palestiniens, malheureusement pour eux, sont éduqués à la haine et à un bourrage de crâne anti-israélien, anti-juif, alors que chez les enfants israéliens, d'abord, une grande partie apprennent même l'arabe comme seconde langue, et on a la main tendue vers l'autre, et le mot shalom est certainement le mot le plus prononcé dans les salles de classe israéliennes.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalem, est-ce que vous avez été surpris en relisant certaines de vos tribunes de guerre ?
Je suis un très mauvais critique, j'aime bien ce que j'écris, malheureusement je ne me critique pas trop, mais je dois admettre, et le lecteur jugera par lui-même, que beaucoup d'articles sont visionnaires, c'est-à-dire j'ai prévu le coup. Je prendrai pour exemple effectivement l'article du 27 septembre 2023, donc une dizaine de jours avant la tragédie du 7 octobre, où je réclame à corps et à cri, pour éviter, je cite, un bain de sang, à corps et à cri, l'élimination ciblée des dirigeants du Hamas avant qu'il soit trop tard.
C'est vrai, je vous confirme, Raphaël Jérusalem, que vous êtes visionnaire et c'est bien pour ça qu'on a toujours plaisir à vous recevoir sur Radio Judaïka. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc à nos auditeurs que vos tribunes de guerre entre 2023 et 2025 viennent de paraître aux éditions David Reynard. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Merci.